Merci d'être venu à temps pour cette deuxième table ronde qui a pour thème une industrialisation des modalités, point d'interrogation. Pour le dire autrement, un processus, une tendance, peuvent-ils donner lieu à des modalités variées ? Alors le projet d'industrialisation de la formation ou de l'éducation ne renvoie pas, et je pense que l'anthologie que vous avez entre les mains pour la plupart en témoigne abondamment, ne renvoie pas à un modèle industriel univoque, et pour ne pas le nommer, celui du taylorisme auquel les acteurs font implicitement référence quand il s'agit d'évoquer une tendance, le plus souvent d'ailleurs pour la disqualifier ou s'en inquiéter. Et ce processus renvoie à différentes modalités industrielles qui peuvent varier en fonction des pays ou des circonstances, des niveaux d'enseignement, mais aussi des visées politiques, des approches culturelles dominantes, des missions principales assignées à l'enseignement, à grand trait. Alors là, on peut reprendre une opposition, Gaëtan ne va pas être d'accord, mais entre une vision américaine qui cherche à fabriquer des individus adaptés et conformes à ce qu'on attend de l'économie et de la société, une approche peut-être plus européenne, où est davantage affirmée la vocation culturelle de l'éducation, mais évidemment ce sont deux polarités, et ce ne sont pas deux oppositions radicales. Ce que donne à voir l'anthologie, c'est bien en fait un champ de bataille sur lequel des projets peuvent converger, se compléter ou se combattre. Et dans la panoplie des textes retenus dans l'anthologie, comme le disait Pierre, sur une période qui court de 1913 à 2012, donc un siècle, on peut citer d'abord évidemment le taylorisme, associé, bien que parfois trop peu distingué d'ailleurs du fordisme, et il ne saurait se confondre lui non plus à un phénomène de bureaucratisation, qui est souvent la voie la plus connue et d'ailleurs la plus souvent décriée de la rationalisation, et que l'on peut trouver, hein, la bureaucratisation, dans des modalités industrielles plus contemporaines d'ailleurs. Alors on connaît évidemment par rapport au taylorisme sa déclinaison behavioriste skinnerienne, pardon, et c'est peut-être la forme la plus aboutie, en même temps que la plus caricaturale, évidemment. Et on peut la retrouver également chez Zinn-Lietankoi, pour qui la dimension sociale et progressiste de l'éducation impose une industrialisation à marche forcée. On le retrouve plus tard encore, sous une forme modernisée et accentuée, chez Paquette ou encore chez Jacques Perriot. D'autres penseurs semblent, au contraire, vouloir son dépassement en mettant en avant des modèles post-tayloriens, pour certains débureaucratisés, mais pas tous, qui tentent de dépasser les modèles standards afin de répondre aux métamorphoses du capitalisme, de sa financiarisation ou de son informationnalisation. C'est le cas de Christine Musselin, hein, qui parle de capitalisme universitaire ou académique, de Ritzer avec sa McDonaldisation, ou des auteurs comme Peters ou Bates, ou encore Stenzecker, qui parle, lui, de politique d'image de marque. Donc ces éléments introduisent la première question que nous poserons à nos intervenants dans cette table ronde. Peut-on parler d'un modèle industriel appliqué à l'éducation tout en reconnaissant la diversité des formes qu'il revêt ? Deuxième point, si le taylorisme éducatif made in USA avait bien une visée substitutive qui exclut toutes les autres formes industrielles, on peut aisément constater qu'il n'a su s'imposer largement et ni définitivement. Une majorité d'autres textes de cette anthologie témoignent davantage d'une approche additive en vue d'une amélioration pédagogique qualitative susceptible de laisser de la place à d'autres modalités, voire à des méthodes artisanales irréductibles à toute forme d'industrialisation. Mais dès lors, comment penser cette cohabitation de modèles ou de modalités industrielles pour certaines incompatibles entre elles ? L'une des vertus d'un texte, qui est plutôt à la fin de l'anthologie de Ritzer, et de nous aider à penser les modalités de cette cohabitation. Selon ces termes, nous passerions du fordisme à la bureaucratie, puis à une forme McDonaldisée, pour aboutir à une forme spectacularisée de l'industrialisation éducative. Ce point donnera lieu à notre deuxième question, comment ces différentes formes s'articulent-elles les unes par rapport aux autres ? S'agit-il d'un processus de sédimentation, d'une simple juxtaposition, d'une exclusion mutuelle, d'autres formes encore ? Enfin, si les notions de proto taylorisme, taylorisme, post-taylorisme semble dessiner une périodisation assez simple, la lecture attentive des extraits commentés de cette anthologie montre aisément qu'il n'en est rien. S'il serait certainement plus juste de raisonner en termes de sédimentation, doit-on renoncer pour autant à toute tentative de distinction de période qui pourrait renvoyer à une façon de poser la question industrielle ? En d'autres termes, pourrait-on distinguer des périodes dans lesquelles les références à différentes modalités industrielles pourraient être multiples et pour certaines revisitées, mais agencées selon un paradigme qui marquerait une époque à moins qu'une telle tentative ne soit vaine. C'est la troisième et dernière question qui sera posée. Quelles formes sont dominantes à quel moment et se dessine-t-il une perspective de périodisation ou pas? Alors, nous allons présenter nos intervenants de cette table ronde que nous allons animer, Yolande Combès et moi-même. Premier intervenant que je présenterai, c'est Gilles Rouet, à ma droite, qui est professeur en sciences de gestion à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et professeur de relations internationales en Slovaquie. Il a exercé de nombreuses responsabilités en France et en Europe, donc je ne reviendrai pas sur toutes. Et aujourd'hui, il est directeur de l'Institut supérieur de management à cette université de Versailles-Saint-Quentin et chercheur au laboratoire de recherche en management. Et par ailleurs, titulaire d'une chaire Jean Monnet ad personam en études interdisciplinaires sur l'Union européenne. Il s'intéresse en particulier à la construction européenne, à l'évolution au management des systèmes d'enseignement supérieur et aux problèmes identitaires et nationaux en Europe. Alors, parmi ces nombreuses publications, j'ai retenu certains titres qui nous intéressent, nous, particulièrement. Un ouvrage qui date de 93, qui s'appelle « L'invention de l'école », hein, qui parlait de l'école primaire sous la monarchie de Juillet. Également un dictionnaire pratique de l'enseignement en France de la maternelle au supérieur, qui date de 1996. Enseigner à l'école primaire en France et en Russie, approche comparée, la plus récemment, en 2002. La formation des maîtres au 19e et 20e siècle, qui date de 2007, ou économie de la connaissance et croissance des régions, qui date, lui, de 2008. Alors évidemment, il y en a bien d'autres, mais là, j'ai fait une sélection un petit peu arbitraire, et j'ajoute que Gilles Rouet connaît évidemment bien aussi les travaux du CIF qu'il a pu suivre à différents moments. Je laisse Yolande présenter notre intervenant Olivier Weinstein.
Oui, alors, Olivier Weinstein, qui est à côté de moi, il me rappelle professeur honoraire, parce qu'il n'est même plus un émérite des sciences économiques, qui a travaillé beaucoup dans le laboratoire, oui, qui travaille toujours, je pense, dans le centre d'économie de l'Université Paris-Nord, Paris 13, qui est co-responsable à la MSH dans le thème 2 de l'axe 3, qui porte sur la mondialisation, l'innovation et la régulation. Et je me suis particulièrement intéressée à un de ses derniers ouvrages parus en 2010 aux éditions de la Découverte, « Pouvoir, finance, connaissance, les transformations de l'entreprise capitaliste entre 20e et 21e siècle », car à mon avis, il montre des aspects majeurs de mutation qui se sont produits à cette période au sein des entreprises et que les trois évolutions qui dégagent aujourd'hui intéresse fortement le système éducatif et en particulier l'enseignement supérieur. En effet, il relève que ces trois évolutions sont la financiarisation et les transformations de la gouvernance d'entreprise, les transformations du système productif, du management et des formes d'organisation industrielle et les transformations liées à la montée de l'économie fondée sur la connaissance. Vous voyez que ces trois thèmes, si on remplace entreprise par enseignement supérieur, on s'aperçoit qu'on est en plein dans nos sujets aujourd'hui. Et en effet, si on regarde les institutions éducatives ou du moins universitaires, on a vu s'introduire de plus en plus depuis les années 90 et de manière massive les instruments de gestion ainsi que l'évolution des formes juridiques et des fondements idéologiques. Et nous avons des changements dont de gouvernance et du pilotage du système éducatif et en particulier au sein des universités, la conversion effective du moins dans une certaine mesure au marché, à la concurrence, qui sont autant de constats qui montrent la porosité croissante des frontières entre sphère académique et sphère des entreprises aujourd'hui. L'offensive actuelle des grandes universités américaines se traduit en particulier par l'apparition d'une politique de marque universitaire, signe avant-coureur dans certaines composantes d'éducation supérieure, enseignement supérieur, d'un système financiarisé, ce qu'on nomme le capitalisme économique, académique. Donc je pense que là-dessus, sur tous ces sujets, Olivier aura beaucoup de choses à nous dire. Merci.
Merci Yolande. Je vais présenter maintenant notre discutant, donc qui est Adrien Stey, qui est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Jean Moulin de Lyon 3. Donc il est arrivé là ce matin de Lyon, donc on le remercie d'être venu spécialement. Il est membre du laboratoire Helico à Lyon et ses thématiques de recherche portent sur les enjeux socio-économiques, d'éthique et des médias numériques, les transformations sociétales, la communication des organisations, les pratiques professionnelles et les usages des dispositifs d'information et de communication. Il connaît bien également les travaux du CIF puisqu'il a traduit en roumain plusieurs ouvrages de Bernard Miège et de Pierre Meuglin. Donc je pense qu'à ce titre, il connaît ses travaux. Et il vient de co-diriger un ouvrage chez L'Harmattan sur l'industrialisation des émotions. Donc ça me semble également un élément intéressant. On devait avoir une deuxième discutante dans la personne de Nathalie Boucher-Petrovitch, mais elle vient de nous signaler qu'elle était coincée par des problèmes de train au nord de Paris, donc elle ne pourrait nous rejoindre. Donc on va finalement être dans la configuration de la première table ronde, à savoir deux intervenants et un discutant. Je vais donner d'abord la parole à mon voisin de droite, à Gilles Rouet, qui va avoir l'insigne privilège de commencer, en peut-être répondant d'abord à notre première question, savoir sur cette diversité des modalités industrielles, comment on peut concilier ça avec un modèle industriel général.
Alors si je vous réponds que je n'en sais rien, ça ne va pas beaucoup faire avancer les choses. Mais effectivement, c'est une question extrêmement importante. C'est en soi un projet de recherche, évidemment, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. J'ai eu la chance, moi, de lire l'anthologie avant quasi tout le monde, hein, Pierre. Et j'apprécie beaucoup que le titre soit industrialisé et non pas industrialisation. Parce que nous nous plaçons dans une logique qui n'est pas celle qui pourtant est importante et dont monsieur Auffon a parlé tout à l'heure, je voulais commencer par ça, qui est celle d'une réflexion épistémologique, qui est, à mon avis, indispensable. Et les questions que vous avez posées emploient les termes « modèle », mais aussi « modalité ». Tout à l'heure, j'ai entendu parler de « processus », j'ai entendu parler des « formes ». Et donc, pour s'y retrouver, ce n'est pas si évident, parce que maintenant que je suis plus en management des organisations, que je travaille sur l'administration publique, d'ailleurs, entre parenthèses, pas mal, on se rend compte très bien que... Quand on évoque modèle, on évoque souvent implicitement, cohérence et stabilité par opposition à des processus. Alors, est-ce qu'on est... Donc, d'où je retourne votre question, c'est facile, vous me direz. Est-ce qu'on est vraiment dans les modèles ou dans les processus? Je n'en sais trop rien, mais par moments, je m'en inquiète un peu. En plus, l'apprentissage, au sens large du terme, est devenu un marqueur de toutes les organisations. Ce qui complique pas mal les choses, parce que on est en train de construire des métadiscours sur des logiques qui elles-mêmes s'expliquent par elles-mêmes. Ce n'est pas très clair. Mais en tout cas, ça complique énormément. Et cette modélisation, puisqu'on évoque des modèles, heureusement, dans l'introduction qu'a réalisée Pierre Meuglin, s'appuie sur des observations de pratique, sur des explications ou des commentaires de discussion beaucoup plus que sur une théorisation générale. Et c'est, à mon avis, une grande qualité de l'anthologie. Alors, les modèles industriels ne se reproduisent pas aisément, mais ça, tu l'as dit dans l'introduction à toi-même. Les frontières sont poreuses, les modalités sont compliquées, les marqueurs, tout à l'heure, la discussion qu'on a eue sur les marqueurs est passionnante, parce que moi aussi, j'aurais bien mis marchandisation également, c'est clair. Pour des tas de raisons, parce que ce mot-là est un mot aussi à tiroir. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les similitudes peut-être, et d'aller voir, d'aller tenter d'utiliser les modèles non pas comme un objet en soi d'analyse, mais plutôt comme une grille, et de travailler sur ces marqueurs. Alors il y a plein de questions qu'on pourrait se poser et qu'on se pose peu. Déjà, j'avais déjà émis comme petit élément de critique que Pierre a repris dans son introduction, le fait que ça commençait en 1913 et que ça aurait pu commencer bien avant. Ça, c'est clair, mais je pourrais en dire deux mots après, parce que ça donne un sens justement à cette industrialisation avec une marchandisation différente. Je ne sais pas, moi, s'il n'y avait pas de marchandisation, mais en tout cas, elle n'était pas de la même nature que celle qu'on a maintenant. Et puis l'autre logique, moi, j'ai eu la chance de vivre dans quatre pays différents relativement à l'est d'ici, et dans l'environnement post-soviétique, on peut dire. Et ces questions se posent énormément, en fin de compte. Énormément. Les héritages. En ce moment, je suis dans un projet, un twinning, un jumelage institutionnel en Macédoine pour faire évoluer leur législation dans la pré-adhésion. Enfin bref, les héritages institutionnels, administratifs, réglementaires sont énormes, gigantesques. Et ces problèmes se posent. Ces problèmes se posent notamment quand on commence à lutter contre des habitudes installées, souvent de corruption d'ailleurs, entre parenthèses, Et ça se pose parce qu'il y a des formes d'industrialisation qui ont été créées et qui se réfèrent à des héritages qu'on ne connaît pas, nous, du tout, dont on a une vague idée et qu'on aurait peut-être intérêt à aller voir de près. Un autre exemple. Dans le socle commun de connaissances, en France, on a mis les compétences numériques. On peut s'interroger sur la façon dont c'est envisagé ailleurs. En Slovaquie, a été créé un corps spécial d'enseignants sur les compétences numériques. Alors, ils ne le disent pas comme ça, eux. Hein. Ils le disent de façon beaucoup plus directe, informatique, communication, etc., etc. Et ils relèvent ça après en compétences, parce qu'il faut faire comme ça dans le processus de Bologne, comme vous savez. Hein. Donc, effectivement, on pourrait s'interroger aussi sur l'influence que ça a. L'intégration à tous les niveaux, comme on le lit toujours, de compétences numériques, sans forcément se poser la question d'ailleurs du rôle de l'école dedans, parce qu'elle est implicite. L'école doit faire l'apprentissage des compétences numériques. Et alors le dedans et le dehors, le smartphone à l'école ou en dehors de l'école, toutes ces questions-là passent un peu à la trappe quand on est dans cette logique. Hein. J'ai un spécialiste à côté de moi, donc je suis modeste là-dessus. L'autre grande question, c'est la formation des enseignants elles-mêmes. Quel modèle de formation des enseignants? Et là aussi, on est dans des logiques qui peuvent ressembler fortement à ce que vous avez dit dans la première table ronde en matière d'industrialisation. Je me souviens de ce qui avait été fait quand on a créé les écoles normales en France, notamment tous les débats qui ont eu lieu, qui étaient fort intéressants. Les relations avec les stakeholders, comme on dit, les parties prenantes, ça c'est nouveau. Dans les collèges, les lycées, on doit faire des projets. D'ailleurs, projet, c'est un mot qui n'a pas été dit tout à l'heure. On a repris l'acteur, mais on n'a pas dit le projet. Et si on ne fait pas, et moi j'adhère à ce qu'a dit Bernard Miage tout à l'heure, si on n'est pas dans la logique de projet, effectivement, à ce moment-là, on est dans une logique qu'on subit et pour lesquelles on va résister. Ça paraît quand même évident. Il n'y a absolument rien de ringard à ce qu'un IEN disent à une mairie, ah ben non, moi je veux pas, vous voulez acheter des tablettes pour l'école primaire, moi j'en veux pas. On peut s'expliquer là-dessus. Alors bien sûr, ça passe mal. Je veux pas jouer les Morozov ici, mais ça peut passer dans une diatribe du technocentré contre eux, voilà. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le respect de l'acteur et de son projet. Et dans ce sens-là, le modèle, un des marqueurs, doit être celui justement de cette nouvelle vision managériale des établissements, au bon sens du terme, hein, pas au mauvais sens, parce qu'on peut l'avoir aussi au mauvais sens. Bref, l'approche industrialisation que décrit Pierre Meuglin, moi, m'intéresse beaucoup. Notamment quand il explique au début cette industrialisation qui peut se faire sans marchandisation, etc. Hein, l'industrialisation, c'est effectivement quelque chose de très ancien. Je ne sais pas du tout à quand ça remonte. Mais il est clair qu'à partir du moment où, pour faire simple, l'école individuelle, cette garderie qui consistait à... Alors je vous parle des écoles de village, hein, bien sûr, ou des écoles des banlieues, hein, on dirait ça maintenant. Pas des collèges, bien évidemment. Hein, qui consistait donc à ce va-et-vient d'enfants dans la classe, et de temps en temps, il y en a un qui était pris pour faire quelque chose avec un maître, voilà. Un jour, c'est généralisé, ou on a constaté la généralisation d'un autre système. Un système individuel. Alors j'avais écrit il y a longtemps un article sur la défaite des écoles mutuelles et encore maintenant je me dis que j'ai dit pas mal de bêtises là-dedans parce que c'est très compliqué de comprendre pourquoi, j'en viens à la question, pourquoi un modèle disparaît par rapport à un autre. Parce que l'école mutuelle était un modèle d'industrialisation incroyable qui a connu des développements qu'on ne connaît pas forcément bien. On en a retenu la colonisation, puisqu'effectivement, ça a été, comme le disait Pierre tout à l'heure, ça a été utilisé avec des milliers d'enfants, etc. Et en plus, c'est un système d'un pré-taylorisme, on pourrait peut-être dire ça comme ça. Bon, c'est malheureux, mais j'aime pas trop les anachroniques, mais il se trouve qu'effectivement, un guide, peut-être plus qu'un maître d'ailleurs, donnait des instructions millimétrées à des moniteurs qui les retransmettaient. Il y avait une façon d'envisager l'apprentissage dans une logique procédurale complète, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un livre excellent qui est Vérité de Zola, où on ne remet plus ça en cause? Dans Vérité de Zola, c'est laïque contre les frères ignorantins, comme on disait à l'époque, sous couvert d'une affaire de mœurs. Mais, alors, ce n'est plus une option naturaliste que Zola avait à cette époque, c'était les quatre évangiles dont il a écrit que trois. Mais il n'empêche que dans Vérité, on voit l'école telle qu'elle devait à peu près être. C'est un très bon témoignage. Et là, on se rend compte très vite que les laïcs contre les frères, ben, ils font la même école, en fin de compte. Ils ont les mêmes méthodes et ils ont la même logique. Et il y a les mêmes industrialisations, puisqu'il y a les mêmes matériels. Dans le nord de la France, que ça se passait plutôt là, enfin dans le quart nord-est, nord-nord-est, on a des ardoises. Donc voilà, on a eu les craies. Alors les craies sont rondes dans notre partie européenne. Et si je vous dis qu'elles sont carrées chez les soviétiques, ça fait bizarre. Ben oui, mais ce n'est pas les mêmes industrialisations, justement. Et il y a des incidences sur la façon d'écrire. Donc, pour moi, le modèle, ça réfère à ça. Alors, je suis peut-être un peu long, mais effectivement, pour la première question, il y a effectivement un ou plusieurs modèles. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Par rapport à ça, et on pourrait en reparler dans le capitalisme académique, parce que je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul capitalisme académique, ou du moins qu'une seule modalité, entre un groupe comme Lauréat qui travaille sur l'enseignement et des groupes, des fonds d'investissement qui rachètent des écoles, les pratiques locales dans les écoles de commerce, hein, essentiellement privées, sont radicalement différentes. Donc du coup, le public est différent, etc., etc. Alors, effectivement, pour la première partie de la question, on reconnaît une diversité des folles, mais on a un modèle appliqué à l'éducation, a priori. Moi, je partage tout à fait la thèse de Pierre Meuglin, qu'il explique au début par rapport à ça. En revanche, est-ce que c'est proche ou pas des champs industriels classiques ? Alors là, c'est une question extrêmement compliquée. Il faudrait creuser certainement par certains endroits. Tout à l'heure, on parlait d'industrie culturelle, par exemple, hein, ou d'industrie créative, comme on dit maintenant. Moi, je pense que si on travaillait sur des analyses un peu conjointes, on trouverait des similitudes assez grandes, ne serait-ce que par rapport au projet lui-même, bien évidemment, de ces industries ou de ces logiques. Hein. Alors, l'étanchéité est évidemment à l'heure. On est dans des contextes qui se partagent, que ce soit l'usine ou l'école. D'ailleurs, la littérature est très nombreuse là-dessus. Hein. Et effectivement, on pourrait se dire que les modèles industriels de l'éducation et les modèles industriels de, je sais pas, de la production pour le 19e siècle, etc., se ressemblent beaucoup. C'est clair quand on regarde l'école mutuelle. C'est pas l'intention. Je ne pense pas que ce soit l'intention, mais c'est clair qu'on a des rapprochements. Regardez les filatures de Lyon, par exemple, en même temps où, vous savez que dans les filatures de Lyon, prenez les petits, parce qu'il passait le travail des enfants quand il a été légiféré, ça a été une catastrophe pour certaines filatures, parce qu'il fallait des tout-petits pour passer en dessous les fils, les raccorder. C'est du pratico-pratique, mais c'était lié à des logiques où les valeurs telles qu'on les voit maintenant n'étaient pas aussi prédominantes par rapport à ça, bien sûr. Et c'est vrai que l'école mutuelle ressemble dans sa pratique, puisqu'on suit des processus. On ne s'interroge pas énormément sur l'acteur et son retour au processus. Et donc l'instruction se fait comme ça, parce qu'on a une vision utilitariste de l'école. Si je finis là-dessus, si l'école est devenue gratuite, plus obligatoire, c'est parce qu'elle était fréquentée. Si l'école n'avait pas été fréquentée, il aurait fallu mettre la police pour envoyer les enfants à l'école. Évidemment, non. Et l'école était donc utile. Bien sûr, les fermiers sont rentrés dans l'ère de l'écrit, du compte. Il fallait bien compter, il fallait bien comprendre. Il fallait que quelqu'un fasse les factures, etc., etc. Tout le 19e siècle, c'est ça. C'est une catégorie différemment selon les régions de France. Ça, c'est clair, on connaît bien le truc. Mais c'est une vision des choses. Et si l'histoire de l'éducation anglaise aussi nous interpelle là-dessus, puisqu'on retrouve un peu les mêmes choses, ou dans d'autres pays, bien évidemment. Donc on est dans des similitudes, certainement, qu'il faudrait creuser, analyser. Actuellement, j'ai des doutes, mais en tout cas pour ces périodes-là, absolument. Mais on y reviendra à la troisième question.
Absolument. Merci beaucoup. Point de vue d'un économiste.
Je remercie alors les organisateurs de m'avoir invité, bien que, comme je le dis, je suis vraiment très extérieur à ces questions. Je n'ai jamais à proprement parler, travaillé sur l'économie de l'éducation, disons, et le système éducatif. Par contre, effectivement, c'est sans doute pour ça que je suis là, et c'est un peu de là que je vais partir. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les questions de l'entreprise, les grandes formes d'entreprise, et comment elles se sont transformées, elles se transforment. C'est un peu de ça que je vais partir. Bon, alors moi, quand on m'a posé les questions, j'ai pris ça de manière un peu pas plate, je dirais. Je me suis dit, bon, industrialiser l'éducation. La première question que je me dis, mais quand même, qui pour moi n'est pas trivial, mais qu'est-ce que peut être le modèle industriel ? Parce que c'est ça. Je vais voir, le grand problème, c'est qu'il est multidimensionnel et que c'est vraiment un système. Hein, c'est un système, voilà. Alors, bon, moi, le point de vue que j'ai, donc je partirai, c'est que, disons, à partir de la fin du 19e siècle, il y a une rupture, mais absolument majeure, dans le capitalisme et dans notre société, autour de la constitution de la grande entreprise moderne. Alors, on lui donne des tas de noms, ce que les anglo-saxons appellent la corporation, et que c'est autour de ça, c'est vraiment devenu, je pense, vraiment un des lieux majeurs où vont se construire aussi bien des formes d'organisation, des formes de gestion, que des idéologies, hein, et que c'est ça. Donc, dans mon idée, l'industrialisation, ça sera la manière dont ce modèle, ce corporate model, ce modèle de la grande entreprise, va diffuser un certain nombre de ses aspects dans d'autres domaines de la société, et en particulier dans l'éducation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Très vite. Bon, il y a tout ce qui touche. En général, on met l'accent fortement là-dessus, mais pour moi, c'est pas... Il n'y a pas que ça, et ce n'est même pas nécessairement le plus important, je dirais, en tordant tout ce qui touche à l'organisation du travail et de la production. Bien évidemment, très vite, c'est Taylor Ford. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est essentiel, parce que c'est la construction de toute une série de procédures d'analyse du travail, d'organisation du travail, de quantification, etc. Donc c'est central. Voilà. Bon, ça, c'est la première chose, c'est la mise en avant de la productivité, hein, d'une culture, enfin, d'une espèce de logique de la productivité et de l'efficacité, hein, qui est quelque chose de nouveau, voilà, et qui va, elle aussi. Bon. Et puis, ça incorpore, bien sûr, la mécanisation, hein, qui en est une des formes, voilà. Deuxième aspect, c'est la production de masse. Bon. Mais en voyant tout de suite, quand même, une chose, hein, c'est bien voir, il ne faut pas prendre production de masse de manière caricaturale. Hein. Y a des l'image du Fordisme peut être trompeuse. Hein. Moi, je dis toujours, dans ce domaine-là, que Sloan a été aussi important, sinon plus que Ford, Sloan, c'est déjà la différenciation. Donc très vite, ce modèle incorpore la différenciation des produits, l'adaptation aux clients, etc. Hein. Ce n'est pas du tout une production de masse caricaturale. On a un produit, c'est pas tout le monde a le droit à avoir, vous savez, c'est Ford. Hein. On peut choisir sa couleur à condition qu'elle soit noire. Hein. Bon, voilà, bon. Bon, très vite, ça va être dépassé. D'ailleurs, c'est comme ça que General Motors dépasse Ford. Hein. Prend le primat sur Ford, hein, avec... bon, voilà. Et alors, moi, c'est ça, moi, sur lequel je vais insister, c'est la construction des systèmes de gestion. Des systèmes, des instruments de gestion et des techniques de gestion qui va... Alors, c'est un processus long, hein, qui va se développer, qui continue, enfin, qui ne cesse de se développer. Hein, et moi, je pense que c'est autour de ça qu'il va y avoir les aspects les plus importants de ce qui va être l'influence du modèle industriel, ce qu'on va appeler le modèle industriel, et en particulier sur l'éducation. Voilà. Hein. Alors là-dedans, il y a des évolutions. À la fin, peut-être j'en dirai un mot. Alors, dans ces conditions, on voit bien, industrialiser l'éducation, tel que je l'ai ressenti en regardant les choses, c'est que selon les cas, on va insister sur tel ou tel aspect. Hein. Il va y avoir toute une série de choses qui est vraiment sur... on a des modes de production proches du mode industriel. Moi, ce n'est pas a priori ce qui me convainc le plus. Hein, parce que je serais quand même tenté de penser que, comme dans les industries culturelles, hein, il y a quand même une spécificité du travail éducatif forte qui va impliquer. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne reprend pas un certain nombre de méthodes et d'esprits qui viennent du taylorisme, qui va être des méthodes d'analyse des pratiques, de codification des pratiques, etc. Hein. Mais enfin... Bon, il y a eu les mêmes discussions sur la recherche. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la recherche. Bon, la taylorisation de la recherche, non, je pense, ayant travaillé, ça ne marche pas, quoi. Hein, y compris la recherche industrielle faite dans les entreprises. Hein. C'est des activités qui demandent des formes d'organisation propres, managériales, et des formes managériales propres, hein, qui ont été construites, hein, qui sont parfaitement construites, qui ont évolué, etc. Voilà. Alors, là, bon, il y a l'aspect d'utilisation de la technologie. Je ne vais pas développer ça, je ne pense pas. Bon, le point important aujourd'hui, c'est l'informatisation ou la numérisation. Bon, c'est une question énorme en soi. Moi, je préfère rien en dire. Alors, il y a une question majeure aussi, c'est est-ce que c'est le lien système éducatif, système économique, industrie. Voilà. Ça, je pense que c'est une question majeure qui a... est-ce que le système éducatif doit être construit de manière privilégiée ou non, ou en grande partie, dans une vision de ses rapports avec le système productif. Alors ça, un mot là-dessus, je pense que c'est une vraie, très, très ancienne question. J'avais vu à l'occasion des choses sur les débats en Allemagne. D'ailleurs, je me suis demandé, c'est une question que je pose. On parle peu de l'histoire des systèmes éducatifs en Allemagne. Alors j'ai l'impression qu'il... Je sais que sur l'entreprise, il y a une histoire qui est quand même différente de l'histoire américaine, hein, la firme allemande, etc. Et je pense que sur les systèmes éducatifs, il doit y avoir des choses là-dessus. C'est surtout important si on pense que, moi, autant ce que j'en connais, le grand modèle de l'université moderne, ça va être von Humboldt, c'est le modèle allemand, hein, à l'origine, hein, qui reste prégnant. Et alors, en particulier, j'avais lu des choses de débat qu'il y a dû y avoir au milieu du 19e siècle entre von Humboldt et Liebig. Liebig, c'est Liebig, je pense, de la soupe, mais en l'occurrence, c'est un chimiste, sur la professionnalisation. Et von Humboldt défendait l'idée qu'il ne faut pas professionnaliser trop tôt l'enseignement secondaire. Hein ? Il y a eu donc un débat à cette époque-là qui, je pense, a dû être important. Il me semble d'ailleurs que c'est en partie von Humboldt qui l'a plutôt emporté, hein, à l'époque. Hein, sur le... Voilà. Voilà les formes. Alors... Dans ces conditions, on voit, bon, ce que je dirais, c'est que l'industrialisation, et ce que j'ai lu, c'est ces différents aspects, mais souvent isolés. Hein. Et j'aurais, moi, disons, si je devais dire quelque chose, mon sentiment, c'est que la dimension majeure, c'est la dimension de la logique managériale prise vraiment des systèmes managériaux, les méthodes de gestion, les techniques de gestion, etc. Voilà. Hein. Et... je tirerais aussi, il y a un point aussi que je tirerais de cette comparaison avec le grand modèle de la grande entreprise, c'est deux questions qui apparaissent comme absolument centrales quand on travaille sur la grande entreprise, c'est la gouvernance et le rapport salarial. Voilà. Hein, et qui n'apparaissent pas tellement. Or, je pense, donc j'aurais tendance à penser que si on veut réfléchir sur, disons, les rapports, enfin l'industrialisation de l'éducation, il faut poser ces questions de mode de gouvernance, c'est-à-dire les types d'institutions, hein, les formes institutionnelles de l'éducation. Hein, voilà. Hein, et les formes d'emploi, quoi. Formes d'emploi, formes de gestion du travail, etc. Hein, alors, peut-être là, je dirais un mot sur ce qui me semble, alors, du coup, à la fois, il peut y avoir industrialisation au niveau d'un certain nombre de grandes formes, venant en particulier des systèmes managériaux, hein, de mon point de vue, et certains aspects de l'organisation du travail. Mais en même temps, c'est la question des spécificités, quand même, de l'éducation. Voilà. Alors, moi, tel que je voyais la spécificité a priori, mais c'est peut-être un peu... Il y a peut-être des similitudes aux questions qu'on se pose sur les industries culturelles. Hein, voilà. Bon, il y a la nature du travail, comme je l'ai dit, hein, c'est le point. Mais quand même, ce qui me paraît important... c'est de prendre très concrètement, ce qu'ont été les formes de gestion du travail, c'est-à-dire comment la formation et le recrutement des enseignants, hein, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur, hein, qui quand même, autant que je sache, jusqu'à une date récente, n'étaient pas les formes dominantes, n'étaient pas celles de la grande entreprise, hein, n'étaient pas celles du monde industriel. Et ça me paraît une dimension importante. L'autre dimension importante spécifique, c'est la gouvernance des différents types d'institutions académiques, enfin, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur. Hein. On a quand même construit jusqu'à présent des formes qui étaient tout à fait propres. Hein. Par exemple, la gouvernance des universités, alors c'est peut-être en train de changer, hein, ça c'est un truc, c'est sans doute un des points qui est intéressant, mais la gouvernance des universités, c'est quelque chose, il y a des modèles assez précis, des modèles de gouvernance d'université assez précis, qui sont quand même tout à fait différents, évidemment, de ce que sont les modèles de la société par action, hein, la gouvernance de la société par action. Et ça a quand même des effets, je pense, hein, des effets a priori forts sur toute l'institution.
Merci beaucoup. Il y a déjà beaucoup de questions qui sont posées, notamment cette spécificité du modèle éducatif qui serait irréductible à des modèles productivistes ou de la grande industrie. Il ne faudrait pas pousser trop le...
Je n'ai pas dit ça. Hein, ouais. J'ai dit que dans les faits, il y a eu quand même...
Aujourd'hui, la question se pose d'un rapprochement.
Mais la question se pose. Hein,
la question se pose.
Après, il y a des grandes transformations.
On va passer la parole à notre discutant, Adriaan.
Merci Laurent. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par ces deux interventions. Je vais commencer par évoquer rapidement quelques-unes d'entre elles, et puis dans le débat ensuite, je pense que nous pourrons approfondir. D'abord, concernant la dimension marchande, en tant que marqueur éventuel, et qui ça nous renvoie à la fois à la table ronde précédente et à ce qui a été dit ici. Effectivement, peut-être que la marchandisation peut être conçue comme étant un marqueur important, mais dans un contexte donné, puisque vous avez fait référence, par exemple, aux pays de l'Est, et il y a eu effectivement des contextes où l'industrialisation s'est énormément développée, avec une articulation très particulière avec la dimension marchande, sans dimension marchande parfois, en tout cas dans une relation très particulière avec la mise sur le marché des produits et des services, si on peut parler de marché. Donc effectivement, l'industrialisation peut être déconnectée à mon sens, et le cas des régimes étatistes, entre autres communistes, le montre. L'industrialisation peut être déconnectée de logiques marchandes particulières. Ensuite, une question concernant la technologisation, qui est une dimension importante. Je me demande quelle est la place finalement de l'évolution des compétences par rapport à la technologisation. Et en général, à chaque fois qu'il y a eu des évolutions industrielles importantes, on a pu observer aussi une évolution des compétences. Et pour revenir à la question de l'industrialisation de l'éducation, je me demande dans quelle mesure il y a une véritable évolution des compétences, à quel moment et pour quelle catégorie finalement d'acteurs on voit émerger avec l'apparition des technologies successives dans l'éducation, on voit émerger des catégories particulières d'acteurs qui sont spécialisés dans la conception, dans la mise en place, dans la gestion de ces dispositifs. Mais je me demande ce qu'il en est finalement des acteurs enseignants, par exemple, eux-mêmes, à ce niveau-là. Comment vous voyez cette évolution des compétences? Est-ce qu'elle peut être un marqueur, un sous-marqueur important dans le domaine de l'éducation ou pas? Et comment on peut la comparer éventuellement avec ce qui se passe de manière plus traditionnelle dans les industries autres que l'éducation? Une autre question concernant finalement les spécificités du système éducatif. Clairement, les organisations éducatives sont très particulières. Mais là aussi, je pense qu'il y a des différences très importantes selon les niveaux. L'éducation à l'université, ce n'est pas tout à fait la même chose que le système secondaire, selon les pays également. Donc sans doute, il faut prendre en compte les spécificités. Et au-delà, je pense, de la question de la gouvernance qui est très importante, il faut s'intéresser, je pense, aussi aux cultures professionnelles qui sont également très importantes dans l'articulation avec des processus industriels et des logiques organisationnelles. Donc j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus, sur la question des cultures professionnelles. Et la question aussi du mode de gouvernance nous renvoie, mais peut-être qu'on va y revenir lors d'une question suivante. Je pense par exemple à l'évolution des formes organisationnelles en général aujourd'hui, parce qu'effectivement, si le modèle par rapport auquel on compare l'industrialisation de l'éducation, c'est le modèle de l'entreprise plutôt industrielle traditionnelle, effectivement, on voit certains décalages, voire beaucoup de décalages, mais qu'en est-il si on regarde, par exemple, des formes organisationnelles qui sont en train d'émerger aujourd'hui, avec des entreprises qui sont complètement déstructurées, avec un travail qui se fait en grande partie en autonomie, qui devient de plus en plus individualisé, voire avec l'ubérisation dont on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, voire avec un travail qui peut être un travail vraiment très ponctuel, le cas des auto-entrepreneurs, par exemple, qui, à travers des plateformes, prennent en charge des commandes ponctuelles. Comment penser les formes organisationnelles aujourd'hui dans ce contexte-là? Est-ce que là, on sort de l'industrie et on considère donc que c'est complètement un modèle différent, et à ce moment-là, la référence ou l'articulation avec l'éducation n'est plus pertinente? Ou alors, si on considère qu'il y a quelque chose d'industriel dans ces nouvelles formes organisationnelles également, peut-être que la comparaison de ces nouvelles formes avec l'éducation peut nous dire quelque chose aussi. aussi sur l'industrialisation de l'éducation.
Il est clair que les établissements en France, en tout cas secondaires ou primaires, restent très particuliers parce que contrairement aux autres pays que je connais, ils ne maîtrisent pas le recrutement, par exemple. Le modèle dans quasi tous les autres pays du monde, je me trompe peut-être, c'est de qualifier, de certifier et de recruter. Donc on recrute en fonction de projets, de compétences distinctives, je ne sais pas, hein. Et comme vous le savez, en France, on a une standardisation des diplômes qui nous pèse un peu quand même. Hein, dernièrement, j'ai travaillé avec la DRH du Technocentre Renault, 12 000 salariés, qui me racontaient que c'était une catastrophe l'argent qu'ils investissaient pour recruter, parce qu'ils sont dans la standardisation des diplômes. Donc forcément, alors, à contrario, dans d'autres pays, on dépense 40% ou 50% de plus qu'en France pour recruter. Parce qu'on va vérifier les compétences, on va mettre en situation, etc., etc., dans des logiques, et je réponds à plusieurs questions en même temps, qui effectivement sont ouvertes. Parce que, alors, je ne partage pas sur l'ubérisation, ça c'est un autre problème, mais les formes organisationnelles, effectivement, comme l'a dit Olivier juste avant, évoluent à une vitesse quand même assez incroyable. On travaille beaucoup sur l'hybridation, voilà, ça c'est des concepts un peu à la mode en ce moment, sur des choses dans ce genre-là, parce qu'on essaye d'y comprendre quelque chose, quoi. Et effectivement, l'autonomie, l'individualisation du travail, ça a un revers. C'est le revers de l'identité professionnelle, c'est le revers du lieu, puisque maintenant, le télétravail est beaucoup plus mûr qu'il y a 15 ans. Maintenant, on a des réelles logiques de télétravail partagées avec des travaux. Vous le savez, au début, quand KPMG a fait sa tour sans bureau, un tiers des gens ont changé de travail au bout d'un an, parce qu'ils n'en pouvaient plus de ne pas avoir un endroit pour mettre leurs photos. Bon, tout ça, on connaît bien. Mais alors pour les enseignants, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a déjà des enseignants qui travaillent dans ces structures-là. Il y a déjà des structures privées d'enseignants qui sont, alors là vous avez dit ubérisés, au sens de la mise en contact et de la médiation, c'est un modèle qui existe. Hein, parce que quand on dit ubérisation, on pense aussi à l'aspect fiscal, à l'aspect budget. Hein. Je parle que de l'aspect organisationnel. Hein, où effectivement, là, les plateformes ou les portails, peu importe, les systèmes informatiques, les systèmes Internet, permettent une mise en connexion directe. Et puis voilà. Bon, ça existe déjà. À mon sens, ce n'est pas très différent d'une entreprise qui promène le chien ou qui va emmener des repas à domicile, d'une entreprise qui fait des cours de maths pour les jeunes, à condition que les parents le demandent, quoi. C'est guère différent. On assiste à une montée de ce type de logique, notamment pour médecine, vu comment en France le problème est structuré, enfin pour tout un tas d'endroits, avec ces logiques justement de vouloir réussir des évaluations, etc., etc. Donc déjà, on y est déjà à ça. Alors est-ce que c'est un modèle industriel hybride, nouveau ? C'est en tout cas, comme le disait Olivier, une organisation de gestion et de management tout à fait nouvelle, ça c'est clair. Alors maintenant, si je prends, je ne veux pas être trop long, mais si je prends les établissements scolaires, que je connais un peu, puisque vous savez que les recteurs en ce moment essayent de former les gens, les cadres qui arrivent. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'ère d'une partie du New Public Management. Il faut être efficace, pertinent, performant, il faut optimiser les fonds. Il faut aussi tenir compte des stakeholders, des parents, de façon différente. Alors bien sûr, ça, pour certains enseignants, c'est une remise en cause totale de leur identité professionnelle. Dans une école primaire, on a mis souvent la charrue avant les bœufs. Les municipalités ont mis des TBI partout. Et comment pouvait se ressentir l'enseignant qui n'était pas du tout au fait de cette technique ? On peut se poser la question quand même. C'est une remise en cause directe qu'on leur a fait. Et c'est absolument pas comme ça qu'une entreprise qui fait attention à ses salariés, parce que c'est les salariés qui sont performants, devrait faire. Eh bien nous, on peut, parce que justement, dans l'enseignement, on a des logiques où si les gens tiennent, c'est parce qu'ils ont un certain niveau de résilience et une identité professionnelle suffisamment forte, sinon ils ne tiendraient pas. Dans d'autres pays, ça ne marcherait pas, ce genre de truc. Il faut quand même reconnaître. Il y a beaucoup d'autres pays, on ne pourrait pas balancer des TBI comme ça, puis débrouille-toi avec, ce n'est pas possible. Alors pourquoi est-ce qu'on balance des TBI ? J'y étais confronté en direct quand j'ai dirigé un institut français à l'étranger. Tout simplement parce que c'est du top-down. Il y a du lobby, il y a tout un système, et hop, on met des TBI partout. Et au moment où ils seront tous formés, ceux qui souhaitent le former, ça sera déjà obsolète, évidemment. On connaît ça, on connaît bien le plan informatique pour tous, il y a eu des thèses sur cette question. on est dans des logiques administratives, je veux dire ça comme ça, hein, pour sans choquer personne, qui sont très particulières, avec des intérêts, avec une volonté ancienne de favoriser l'industrie française, ça a été le cas à une époque, sans forcément s'interroger sur l'élément essentiel qui est l'acteur. Pas forcément l'élève, mais au moins l'acteur. Hein, effectivement, en ce moment, on dit une des grosses phrases, c'est de, ce qu'on dit pas dans les entreprises. Hein. Moi, j'entends pas d'entreprises où on dit tiens, c'est étrange, en dehors, on a des compétences qu'on n'utilise pas en dedans. Ben, on le dit pour l'école. Voilà, à l'air de dire, oh, les instituts, ils sont quand même, les professeurs des écoles, ils sont quand même très ringards. Vous vous rendez compte, ils sont toujours quasi à la craie et au tableau. Hein, et donc du coup il y a un décalage social cette fois-ci et culturel qui se pose. Je reviens à la culture, c'est pour ça, parce que c'est là-dessus que vous avez et effectivement il faut absolument avoir une analyse par la culture au sens organisationnel du terme, parce que sinon ça marche pas. Et implanter comme ça par un lobbying ou par du top-down des équipements sans avoir même souvent jamais fait la liaison pédagogique, parce que j'ai vu des démonstrations de TBI il y a longtemps au début où on nous montrait les bienfaits technique de la chose. Et quand il s'agissait de dire, mais pédagogiquement, ça donne quoi ? Il n'y avait plus personne. Parce que tout simplement, le lien n'était pas fait. Il fallait vendre en espérant qu'après, ça bougerait. On a ce genre de débat aussi avec Microsoft, par exemple. Le débat de Jeannenet sur la très grande bibliothèque avec Google, quand il s'agit de numériser tous les livres français, est un petit peu du même style que le débat sur Microsoft. On habitue les enfants à un produit, en espérant que la McDonaldisation dont on parlait, bien sûr. Donc, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut tenir compte d'une autre logique. Et j'ajouterais à ce qu'a dit Olivier sur les modes de management, les logiques culturelles, évidemment. Parce que si on ne fait pas ça, on mélange tout. Et il faut tenir compte de nos institutions, de nos histoires institutionnelles, du fait qu'on a encore des chefs d'établissement qui n'ont pas forcément de lien hiérarchique très, très simple sur les équipes, puisqu'ils ne recrutent pas. Alors, ce n'est pas forcément à eux de recruter, ce n'est pas ça que je veux dire, mais on ne peut pas leur donner des obligations et des outils qui correspondent à d'autres institutions. Ça ne marche évidemment pas de la même façon que dans les écoles. Il faudrait... comme pour les enfants, en espérant qu'ils auront le plaisir d'apprendre, bah que les collègues aient le plaisir d'utiliser un certain nombre de choses, ou d'utiliser autre chose. Rien ne prouve, à ma connaissance, qu'une opération est plus performante qu'une autre. Si en ce moment, on écrit beaucoup sur PISA et les résultats, nanana, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'informatique qu'on est mauvais ? C'est quand même... Eh bien, il y a des commentaires qui reviennent à cette question, ce qui est quand même une question complètement décalée. Hein, c'est, vous voyez. Donc effectivement, le mélange des gens, ce télescopage, et je pense que le projet de réfléchir à l'industrialisation n'est pas celui-là, évidemment, hein, bien sûr, hein, par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais...
Peut-être une précision, et par rapport aux interpellations d'Adrien.
Oui, je vais intervenir sur un point, oui, sur la culture professionnelle. La question de la... Bon, alors, effectivement, c'est une dimension importante. Je ne connais pas ça particulièrement, c'est clair. La question, pour moi, ça serait comment elle se forme. Alors, elle se forme. Je dirais simplement un mot. Bon, par exemple, il y a sûrement des très grandes différences entre le supérieur et le secondaire, hein, là-dessus. Bon, je vais simplement parler du supérieur. Pourquoi dire que c'est extrêmement important ? J'ai l'impression... que dans ce qui se fait à l'heure actuelle dans les transformations de l'université, il s'agit de transformer profondément la culture professionnelle des enseignants du supérieur. Voilà. Et alors, derrière ça, moi, il me semble, pour les enseignants du supérieur, il y a, me semble-t-il, je pense à des choses, quand j'ai travaillé un peu sur les questions de science et d'économie de la science, ce qu'a été la culture de la science, qui a joué un rôle extrêmement fort dans la formation de l'université moderne, hein, c'est-à-dire qu'il y a une culture de la science, une éthique de la science, etc., qui est centrale et qui est quand même liée, me semble-t-il, hein, c'est un des points que je voulais parler après, hein, sur l'importance donnée du champ académique comme un champ autonome, hein, produisant ses propres règles, produisant ses propres normes de fonctionnement, etc. Hein, voilà. Hein, et que ce qui est en jeu à l'heure actuelle, je voulais le dire après, c'est... Pour parler vite, un peu la destruction du champ académique comme champ autonome. Hein, voilà. Ce qui passe précisément par un changement très profond de la culture professionnelle. Alors, il y a des textes, je pense, majeurs là-dessus. Hein. Je dirai un mot après hein, c'est sur la troisième question. Là-dessus, voilà. Sur la question de l'entreprise traditionnelle, etc., bon, et le fait qu'il y a des changements. Bon, alors oui, bon, c'est ce que je fais dans le bouquin que j'ai fait. C'est ce que tout le monde dit aujourd'hui, il y a une rupture majeure. On a une grande forme dominante d'entreprise managériale qui va presque de la fin du 19e jusqu'aux années 70. Hein. C'est ce qu'on appelle des fois l'entreprise chandlerienne. Hein. C'est Chandler qui l'a analysé, qui a un certain nombre de traits majeurs. Et il y a depuis, effectivement, une transformation très profonde de toutes les formes. Voilà. Alors moi, l'idée que j'avais un peu, mais là encore, comme je ne connais pas le champ, c'est que les idées sur l'industrialisation de l'éducation vont suivre ça. C'est-à-dire, à une certaine époque, on va peut-être penser l'industrialisation de l'éducation sur le mode de la grande entreprise des années 60. Hein, voilà. Et puis maintenant, on va penser l'industrialisation de l'éducation sur la mode de ce que seraient des GAFA. Pour passer à l'extrême hein, de ce que serait la nouvelle forme emblématique du nouveau capitalisme, les GAFA. Voilà. Hein, c'est caricatural ce que je dis, mais enfin, c'est en gros quand même un peu ça l'idée. Voilà. Un point, je rajoute un point que j'ai oublié tout à l'heure, qui me paraît alors absolument central dans la culture managériale, ça a été ce qu'on a appelé le management by numbers, la gestion par les nombres. Bon, alors je pense que c'est... Alors ça va au-delà de l'entreprise, hein, puisque c'est Soupio hein, qui a fait tout un cours au Collège de France qui est sur le thème du gouvernement, de la gouvernance par les nombres. Hein. Il développe ça. Mais dans l'entreprise, on le voit très bien. Il y a des choses précises sur comment l'évolution des méthodes de gestion va donner donc toutes les techniques d'évaluation, de contrôle, d'évaluation... De quantification, etc., vont jouer un rôle central dans le mode de fonctionnement. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et alors ça, je serais à dire, c'est l'expérience maintenant quotidienne des universitaires. Hein. Bon, voilà, hein, c'est cette gestion par les nombres, hein, à tous les niveaux. Voilà.
Oui, c'est important. Moi, je voulais rebondir sur une expression que vous venez d'employer en disant « l'éducation va suivre ça ». La question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'il y a forcément des modèles industriels qui viennent de l'extérieur et qui donc, du coup, vont se succéder et à chaque époque, l'école va devoir plus ou moins s'adapter à ce qui lui vient de la société ou de la grande entreprise ou de la nouvelle entreprise plus souple, délocalisée, etc. Ou bien est-ce qu'il n'y a pas, justement, au regard des spécificités du champ, des formes même impures, je dirais hybrides, qui viendraient peut-être d'éléments extérieurs, mais aussi d'éléments endogènes qui seraient elles-mêmes produites par un champ qui a aussi ses particularités. Et qu'est-ce qu'on peut dire dessus ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a des expressions qui nous échappent de temps en temps. On est d'accord. Rien ne suit rien. On est dans un contexte général et ce qui se passe au mois de juillet se passe dans tout un tas d'organisations sociales, économiques en même temps. L'hybridité, c'est un peu à la fois le mot à la mode et ce qui résume peut-être le mieux ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas trop où on va. Hein. Vous savez, moi j'ai... Je suis un anti-transitologie par rapport à ça, parce que quand on parle de transition, on est d'un état vers un autre état. Puis on imagine savoir quel autre état... mais non, on ne sait pas, en fait. On regardait en ce moment la réaction, juste en ce moment, de l'Assemblée nationale sur les problèmes fiscaux des entreprises ubérisées. C'est clair qu'il y a des réactions évidentes. Mais ceci étant, c'est des discours que je tiens en France et qui passent bien aux étudiants. Si je les tiens dans d'autres pays, ça ne passe pas. Parce que le rapport au collectif, le rapport à l'intérêt général n'est pas forcément le même partout non plus, évidemment. Donc ça c'est tout à fait intéressant d'essayer de mettre en transposition toutes ces choses-là, bien sûr. Hein. Mais on est dans une... Alors, l'air de rien, je pense qu'on parle de l'autre marqueur d'idéologisation depuis tout à l'heure, puisqu'effectivement, il y a quand même une mythification de tout ça. Alors, même si... Moi, je ne souscris pas forcément aux extrêmes anti-technocentrés de Morozov ou d'autres auteurs. Il n'empêche que c'est vrai qu'on mythifie quelque chose. On mythifie une autodidaxie numérique, autonome, qui pourrait trouver les produits qui lui correspondent, qui serait le propre acteur de sa propre évolution, donc de son propre produit. Vous voyez, la rétroaction de la servuction dont on parlait tout à l'heure, hein, puisqu'en fait, on y arrive très... ça reste quand même un mythe, puisque quand on interroge des jeunes de 20 ans ou des jeunes plus âgés, la figure du professeur reste quand même quelque chose d'important. Nous sommes dans des relations humaines et tout à l'heure on parlait de Durkheim et le lien social reste une problématique essentielle. Enfin, j'espère. Et effectivement, y compris dans les entreprises d'ailleurs quand on recrute. Comment recrute-t-on ? Alors moi je suis très sensible à la question qui a été posée là puisque mon dernier article est sur justement l'évaluation des enseignants-chercheurs. C'était risqué, ça sera dans GMP, la revue du management public. Et je mets en parallèle plusieurs systèmes en essayant d'ouvrir un champ intéressant pour la recherche, à mon avis, qui est les systèmes d'évaluation aboutissent à quel type d'enseignant-chercheur ? Comment se comportent les jeunes qui arrivent ? Les seniors dont je suis parmi nous, on connaît bien le problème. C'est pas une question de génération Y, ça j'adhère pas trop, mais c'est vraiment une question de formatage et d'orientation. Et on retrouve cette logique-là dans énormément de choses. C'est ce que j'ai dit la dernière fois à Versailles, au rectorat, puisque méfiez-vous, à force de vouloir former au management public, vous allez orienter des nouveaux professionnels qui auront le nez sur le guidon, sur des indicateurs, sur des chiffres, sur des... Et oui, mais où est le projet de l'école là-dedans hein ? C'est ce que vous disiez, madame, le projet citoyen. Bien évidemment, je pense qu'il faut qu'on ne néglige jamais les valeurs et les principes, parce que sinon, effectivement, l'identité professionnelle elle-même, hein, c'est en ça que j'articule les choses, va évoluer vers autre chose, bien sûr. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, je ne pense pas que quelque chose suit quelque chose. En revanche, nous avons la dimension institutionnelle à prendre en compte. Ça, c'est vrai que ça pourrait être d'ailleurs un des marqueurs de la socialisation, dont on n'a pas encore parlé, puisque c'est une approche riche, puisqu'elle participe aussi aux évolutions culturelles, aux évolutions identitaires des acteurs, etc. Et évidemment, elle respecte les contextes. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme vous le savez bien. Donc ça fait partie des perspectives pour les futures recherches qui vont se faire après ça.
Merci. Sur la deuxième question de la table ronde, sur la sédimentation, est-ce que vous voulez intervenir ?
Oui, puis j'ajouterais aussi que par rapport au GAFA, en effet, il y a des facteurs qui poussent à peine dans certains endroits. On voit bien qu'en effet, ça ne va pas concerner toutes les grosses universités, mais les très grosses universités peuvent aller à certains endroits de leur structure vers ce type-là. Enfin, on voit bien que ça risque d'être un peu mité.
Non, simplement parce que bon, le problème que j'ai eu en réfléchissant à ça, c'est quand même, il y a aussi une très grande diversité des activités éducatives, quand même, et des formes éducatives. Y compris, d'ailleurs, en plus, il y a une très grande diversité par type d'éducation, le secondaire, le supérieur, la formation continue. Mais même dans le supérieur, vous avez, moi, ce qui est quand même très important, vous avez le système universitaire, vous avez en France les écoles, vous avez cette multiplication... Des petites écoles de gestion dans des domaines les plus divers. Donc ça m'a paru assez difficile de répondre. Et il y a également, alors j'ai l'impression, aussi une diversité des types d'entreprises. De la même manière, moi j'ai tendance à raisonner un peu comme dans l'industrie. Faut penser aussi la diversité des types d'entreprises éducatives. Ça d'autant plus qu'il y a là aussi des évolutions, je pense toujours au supérieur, parce que c'est ce que je connais, qui pousse à une différenciation forte, à une stratification, une différenciation forte des institutions universitaires. C'est clair, là, avec les pôles d'excellence et autres, enfin, tout le programme européen, enfin, toute la politique européenne là-dessus, elle est, je pense, très clairement là-dessus. Moi, on a des exemples récents dans une lettre, je ne sais pas si tu as vu cette lettre, du président de Paris 5 à Paris 13, qui est très explicite sur ce genre de questions. Sur ce genre de questions. Voilà, c'est une université. Il y a des universités de proximité. Il va y avoir des grandes universités de recherche et des universités de proximité. Voilà. Voilà. Peut-être sur la. Enfin, je sais pas. Sur la stratification. Le fait aussi, moi, l'idée que j'avais, c'était que quand on parle d'industrialisation, on va renvoyer à différents types de procédures, de dispositifs, etc. Et j'ai l'impression que la manière dont sont mis en place ces dispositifs et se combinent peut être extrêmement variable. Mais la vérité, c'est que j'ai pas une connaissance suffisante j'ai pas fait suffisamment d'analyse des systèmes éducatifs pour pouvoir en dire beaucoup plus que ça. Voilà. Donc, autant que je... quand on n'a rien à dire, autant se taire. Quoi. Voilà.
Gilles, un mot là-dessus ?
Un petit mot là-dessus, oui. Effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de standardisation, mais je l'ai pris un peu en négatif. Maintenant, je vais le redire en positif, parce qu'on assiste à une déstandardisation actuellement, une individualisation, ça a déjà été dit. Ça a évidemment des effets sur les modèles industriels, bien sûr. Les modèles d'organisation, etc. Tout à l'heure, on a parlé un peu de l'algorithmique pour l'APB, pour le placement des étudiants. Bon, j'ai travaillé un peu là-dessus. Il y a un article de la loi République numérique, je crois que le titre de la loi, un truc comme ça, l'article 4, qui donne le droit à tout citoyen d'avoir accès aux sources des algorithmes. APB, il a fallu un procès de l'association des lycéens pour que le ministère tente... Alors, bon, je leur ai demandé pourquoi, parce que j'ai écrit aussi un papier là-dessus pour le Parlement européen, donc ça n'a rien à voir. J'aurais demandé pourquoi. Et ils m'ont dit, bah, c'est compliqué. Nous-mêmes, on n'y comprend rien. Et effectivement, c'est une affaire de spécialistes. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que ça devient de la communication politique. Parce qu'il faut pouvoir... Alors, ils ont publié quelque chose il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas sûr que les lycéens soient rassurés avec ça. Mais en tout cas, ça pose un gros souci. À mon avis, une des tendances très intéressantes de l'évolution des modèles dont on parle, c'est le marketing, l'intégration du marketing, et notamment du marketing public. C'est quand même quelque chose dont on un peu insidieux, on s'en rend pas bien compte. Mais à partir du moment où on est dans une logique d'optimisation, on va optimiser pour chacun de nous l'algorithmique sur les données que nous produisons nous-mêmes. Bien sûr, et qui sont la valeur, bien sûr, de ces entreprises qui le font. Et alors, qui nous échappent, hein, par définition. Moi-même, j'ai pas éteint mon smartphone, j'ai produit déjà pas mal de trucs. Hein. Donc, mais où est le désir ? Puisque notre futur est le fruit de l'analyse de notre passé, on peut se poser la question de l'humain et du désir, et du social. Toutes ces questions-là, bien évidemment. Alors, quelle forme de modèle ça produit, ça ? Hein, quelle forme de modèle, voilà, d'orientation. On peut, un ancien président qui n'y sera plus avait fait le scandale parce qu'il avait suggéré d'analyser les données dès l'école maternelle par rapport au comportement des enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, mais l'air de rien, on n'en est pas loin, puisque dans APB, on peut répertorier toutes les notes qu'un élève a depuis le début jusqu'à maintenant. On pourrait imaginer un calcul qui ne lui demande pas ce qu'il en pense. On pourrait, bon d'accord, on lui demande ce qu'il en pense, mais si on fait un calcul, un algorithme, on le désigne directement pour aller, alors soit dans un établissement de proximité, ce qui dans ma bouche n'est pas d'ailleurs péjoratif, soit dans un établissement prestigieux. D'ailleurs, entre parenthèses, Louis Legrand et autres ne sont pas dans APB. C'est quand même pas par hasard que certains lycées n'y soient et d'autres n'y soient pas. Donc on a vraiment un modèle de société qui dépasse l'industrialisation. Hein. Alors bien sûr, les modèles d'industrialisation sont liés à ce modèle de société. Mais je ne sais pas qui est capable aujourd'hui d'envisager comment les choses vont se tourner. Moi, je crois beaucoup en l'institution et en sa résilience. C'est un concept qu'on utilise notamment pour expliquer pourquoi les sociétés post-soviétiques se sont redressées si vite. Parce qu'on était à l'effondrement, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai travaillé en Russie dans les années 90, il n'y avait plus d'État, plus rien. Enfin, c'était quelque chose qu'on imagine à peine, sauf en cas de guerre, peut-être. Mais effectivement, les sociétés se sont redressées très, très vite. Et les politistes, comme les gens de management, essayent de comprendre pourquoi ils se sont redressés si vite. Et l'institution, avec la résilience collective, effectivement, c'est un concept qu'on a appris évidemment à d'autres, mais c'est tout à fait intéressant d'essayer d'aller un peu plus loin par rapport à tout ça, de comprendre que dans certains pays, justement, eh bien, les héritages ont ça de positif qu'ils ont résisté. Et actuellement, quand je vois dans les conseils d'école ou dans les établissements des enseignants qui résistent, moi personnellement j'en suis extrêmement content, parce qu'au moins on est dans des logiques où la déstandardisation n'aplanit pas tout par rapport à une logique de consommation immédiate et non pas par rapport aux logiques du désir et du futur, hein, puisque c'est quand même ça le gros souci. Hein. Alors je crois que c'est peut-être la première fois que l'industrialisation, le modèle industrialisation est un modèle qui nous construit un futur étonnant. Parce qu'avant, on était beaucoup plus dans une logique de progrès, voilà. Hein, donc on se projetait beaucoup plus. Là, à consommer que ce qu'on consomme, ou à être incité à consommer que ce qu'on consomme, on construit un monde extrêmement différent, bien sûr, par rapport à ça et par rapport à la projection. Hein. Donc c'est la question, c'était... La sédimentation, oui, moi je crois énormément. Alors peut-être aussi qu'il y a des exclusions mutuelles de modèles actuellement, notamment dans le capitalisme académique. Je ne sais pas quel destin auront les groupes comme Lauréate en France, par exemple, qui se sont retirés d'ailleurs il y a peu de temps, qui sont des groupes capitalistiques académiques d'un genre particulier, puisque ce qui les intéresse, eux, c'est la formation et l'efficacité de la formation, au détriment de fonds de pension ou de fonds d'investissement qui font du profit à court terme. Enfin, c'est une logique qu'on a connue, et ça a été la première fois, je crois que c'était une usine LU qui avait fermé alors qu'elle faisait du profit, disaient les salariés, donc personne ne comprenait pourquoi on ferme une... Voilà, c'était... Ben, il se passe exactement la même chose dans ce genre de logique. Donc c'est vrai qu'il y a des similitudes évidentes, et une forme de capitalisme académique peut comme ça prendre le dessus sur une autre, absolument. Hein. Ça peut aller très très vite, à mon avis, dans ce cadre-là.
Mais est-ce que la déstandardisation dont tu parles, est-ce que ça ne peut pas être remplacé par une autre forme de rationalisation? Est-ce que ça n'exclut pas...
Oui.
Les logiques de compétences,
c'est une autre forme de standardisation. Alors, les logiques de compétences. Vous savez que dans le cadre du processus de Bologne et de l'Union européenne, mais ça dépasse largement l'Union européenne. Là, j'étais en instance de thèse hier et j'ai appris que le Cap-Vert avait mis, Cap-Vert, 500 000 habitants, vous voyez où ça peut se trouver, avait mis au point un cadre national de qualification. Bah oui, donc j'ai essayé de demander pourquoi ils avaient fait ça à l'étudiant qui ne savait pas, c'était un Cap-Verdien, on doit dire comme ça. Et effectivement, c'est très intéressant de voir comment se construisent ces cadres de référence. Ces cadres de référence se construisent avec les représentants des professions, théoriquement, qui travaillent sur les professions actuelles, sur des compétences. Voilà, et après, on va demander aux universités et aux autres instances, aux autres établissements, de construire des programmes de formation qui... voilà. Bon, est-ce que réellement, ça correspond à ce qui se passe Je reprends mon exemple du technocentre de Renault, qui était à 50 ans en Yvelines. Eh bien, pour eux, non. Pour eux, c'est déjà dépassé avant même d'être publié. Parce qu'on a un gros souci institutionnel, là. On peut pas anticiper des évolutions dont on a déjà nous-mêmes du mal. Et la logique de compétence est une logique intéressante, certes, mais d'en faire l'alpha et l'oméga de toute la formation, moi, ça me paraît abusif, c'est clair. Je suis d'accord. Mais c'est pas une raison. Soyons résistants.
Merci. Adrien, tu veux ajouter des choses ?
Alors, une première réaction concernant la relation intérieur-extérieur. Est-ce que des modèles viennent surtout de l'extérieur ou de l'intérieur ? Une réflexion par rapport à l'importation des idéologies et par rapport au décalage avec les discours. C'est vrai, me semble-t-il, que dans ce domaine, les idéologies sont souvent, en tout cas celles qui conduisent à la rationalisation, sont souvent importées de l'extérieur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être d'observer le décalage avec le discours ou les discours qui visent à la mettre en place. Et c'est clair que ces idéologies ne sont pas présentées en tant que telles. Ces idéologies avancent à travers des discours qui disent autre chose. Et ça me renvoie à ce que vous avez dit sur sur les évolutions des pratiques et sur le rôle des évaluations dans l'acceptation d'une évolution des pratiques. Et c'est une anecdote, mais je discutais avec un collègue dans le couloir tout à l'heure et on se posait une question par rapport à des pratiques d'évaluation qui sont en train de se mettre en place dans le supérieur. Et on se disait à quoi cela va aboutir, comment ça va se mettre en place, est-ce qu'il y aura des conséquences, est-ce qu'il y aura des sanctions, etc. Et on n'y voit pas très clair. Et si on n'y voit pas très clair, c'est peut-être aussi, je ne dis pas qu'il y a un objectif volontaire derrière, mais que derrière, peut-être l'effet le plus important, c'est l'évolution des pratiques. C'est-à-dire, c'est tout simplement l'intégration de l'idée d'une évaluation formelle, alors qu'il y a d'autres formes d'évaluation qui sont en place, mais l'idée d'une évaluation formelle qui, désormais, va être acceptée en tant que composante, finalement, du travail, et donc appliquée dans les pratiques des enseignants-chercheurs. Je me pose une question par rapport à la question de l'image de marque et par rapport au capitalisme éducatif. Il y a effectivement, je pense qu'il y a plusieurs composantes. Il y a d'une part l'exploitation des données selon le modèle des algorithmes prédictifs qui peuvent destiner tel ou tel élève à tel ou tel parcours. Ça, c'est une chose. Il y a un deuxième élément qui est tout simplement la construction des images de marque afin de gagner des marchés ou de mieux se positionner sur certains marchés. Mais il y a aussi peut-être une troisième hypothèse. Les trois sont complémentaires. C'est tout simplement le fait que les universités participent, comme toutes les autres organisations, de l'élargissement des relations publiques, tout simplement. Et quand on regarde, par exemple, la pratique des pages Facebook, de l'utilisation de Twitter et la valorisation, finalement, de la marque université, c'est fait parfois dans un contexte avec des objectifs de développement, mais c'est fait aussi tout simplement parce que l'injonction à la communication généralisée contamine les universités au même titre et les écoles et les autres établissements d'enseignement au même titre que les entreprises et que les organisations au sens large.
Merci Adrien. Je pense que Bernard Miège avait déjà beaucoup dit de choses là-dessus sur cette injonction à la communication généralisée. On va passer la parole à la salle maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé au sein de cette table ronde.
Oui, bonjour. Bonjour. Depuis tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup de caricatures sur les nombres qui sont ces innocents qu'on fait avouer sous la torture. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper sur ce que l'usage des technologies du numérique, en particulier les techniques de data mining et du big data, peuvent apporter. Ce que nous faisons, c'est tout simplement regarder comment statistiquement, sur des éléments qu'on a déjà observés, les choses se sont comportées. Et l'idée, c'est de dire quelle est la moins mauvaise des décisions. Faut-il jouer à pile ou face, en gros, c'est ça. Ou bien faut-il utiliser ça comme étant un élément d'aide. Mais in fine, ce n'est jamais, je dirais, déterministe. Donc tous ces modèles-là sont des modèles connus, stochastiques, c'est des modèles probabilistes, pour certains qui sont stochastiques, mais ce n'est jamais déterministe. Et alors souvent, on confond, on leur fait dire que véritablement on serait prisonnier de ces choses-là. Ça n'a jamais été le cas, et je pense que c'est une fausse idée que de véhiculer ce danger sur l'utilisation des nombres. Et je vous fais remarquer qu'une grande partie de l'industrie s'est beaucoup améliorée, les services se sont beaucoup améliorés grâce justement à ces techniques de data mining.
Les citoyens doivent absolument prendre ça en compte. Certains États américains ont mis en place un système d'allocation santé lié justement au big data, lié à leur utilisation par rapport au comportement de chacun. Dernièrement en France, heureusement, un des grands groupes assurantiels a déclaré qu'il ne rentrerait jamais là-dedans. Mais moi, je suis désolé de vous contredire, mais ça existe déjà. Il y a déjà des déterminismes. Alors, on peut les accepter, les uns et les autres. Moi, je peux me dire, ah bah oui, super, je vais m'obliger à... Bon, ok. Mais on peut aussi être dans une autre logique, fort heureusement. Et je crois qu'il faut à la fois être vigilant et dénoncer. Il ne faut pas être angélique en pensant que les choses peuvent ne pas devenir pires par rapport à la liberté individuelle, quand même. Hein. Et en matière d'enseignement et d'éducation, c'est quand même assez fondamental. Si effectivement l'APB est souscrit dans une logique de prédétermination des destins, où en est le désir et le plaisir et la rupture? Et je suis désolé, mais ça arrive. Et c'est très facile de le faire.
Oui, un petit mot là sur cette histoire de gestion par les nombres. L'important, c'est comment se transforme la manière dont on utilise les nombres et la place qu'ils occupent. Bon, moi, je parle de l'entreprise. Il y avait de la gestion par les nombres, il y en a toujours eu, bien évidemment. Il y avait les systèmes comptables, etc. Mais un certain nombre de nombres, de données, en l'occurrence, c'était des données de rentabilité, hein, faut pas faire, c'était utilisé, disons, comme un des éléments de jugement et un des éléments d'analyse. Quand ça devient un instrument à partir duquel on va juger un responsable d'une division, et c'est ce qui tend à se passer, parce que la logique étant que les dirigeants de l'entreprise au niveau le plus élevé, dans des entreprises très diversifiées, ils n'ont pas les capacités pour évaluer, hein, les compétences pour évaluer effectivement, disons, ce qui se fait dans telle ou telle division. Et donc ils vont de plus en plus s'appuyer directement sur les données chiffrées. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, tout ça. Hein. C'est Chandler, hein, toujours, hein, qui dit, mais il y a une rupture profonde dans la manière d'utiliser les nombres. Voilà. Et c'est ça qui est important.
Oui, Paul Sandelman de l'AFPA. Dans cette analyse de l'industrialisation de l'éducation, il y a une place particulière que tient la formation professionnelle, c'est-à-dire comment elle évolue. Est-ce qu'elle est, elle est une passerelle entre le système productif et le système éducatif? Bon, et il y a un autre élément aussi qui est intéressant, qui est la réinternalisation des fonctions formatives par les entreprises. Bon, il y a un regain des écoles, des universités, d'entreprises. Donc dans ces deux phénomènes-là, il me semble, moi, que la formation professionnelle est un peu dépossédée du côté du système éducatif, à qui on demande finalement des finalités, des objectifs qui appartenaient à la formation professionnelle. Et de l'autre, les entreprises s'emparent ou se réapproprient ce que la formation professionnelle portait. Et là, il me semble qu'il y a un élément de tension intéressant à analyser.
Oui, oui, je souscris à ce que vous venez de dire, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on parle formation, éducation, il faudrait préciser les champs, mais vous avez tout à fait raison. Et de plus en plus, là où je suis moi, on vient me solliciter pour une sorte de co-gestion ou co-organisation, on va dire ça comme ça. Dernièrement, j'ai eu le BTP. Enfin bon, il y a effectivement des envies de co-travailler ensemble sur des problèmes, parce que pour éviter justement ce que vous venez de dire, cette différenciation à la fois institutionnelle et du projet qui est forcément négative, et bien sûr. Oui.
Non, je voulais simplement, Catherine Robbie, Rennes 2, je voulais simplement dire que effectivement le data mining était très différent des indicateurs de gestion. Voilà, c'était simplement ça, mais vous avez répondu.
Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, je me demande, enfin, vous avez au début essentiellement essayer de voir à partir du cœur de l'éducation et de la formation ce qui était en train de se produire et comment l'industrialisation pouvait se développer. Mais est-ce que ce n'est pas aux marges, si je puis dire, à l'extérieur, il n'y a pas que la formation professionnelle, mais il y a aussi tout ce qui est cours complémentaires, cours, disons, pour former les enfants en dehors de... Enfin, quelle importance ça peut prendre, ça, enfin, ce qui est à côté du système éducatif, à côté, aux marges. Enfin, moi, j'ai l'impression
mais lié.
Mais oui.
Mais lié au système. On peut penser. Enfin, moi, je pense dans ce que tu dis aussi, tout l'enseignement parallèle pour la médecine, par exemple. Hein, tout le système qui s'est mis en place et qui est distinct, mais quand même très très lié.
Je m'interroge à savoir si une des caractéristiques des nouvelles formes d'organisation qui se mettent en place, qui donnent plus d'importance, comme Alain l'a dit ce matin, lors de la première table ronde, à la figure de l'entrepreneur, si elle ne se caractérise pas aussi par une nouvelle importance donnée au rôle ou à la figure de l'usager. Il me semble que jusqu'à présent, l'usager, l'apprenant, n'était peut-être pas absent des formes d'industrialisation, mais il a peut-être un rôle accru actuellement. Et c'est peut-être ce qui explique un développement, un accroissement de l'industrialisation. Je regarde, et ça se joue non seulement au niveau de l'achat et de la valorisation des appareils, qui sont maintenant réclamé par les apprenants, c'est-à-dire l'iPhone, l'iPad, l'accès à des technologies qui autrefois leur étaient un petit peu peut-être imposées. L'audiovisuel n'était pas tellement en demande par les apprenants eux-mêmes. Il y a cette demande pour les appareils, pour l'utilisation des appareils, mais aussi il y a, on constate, en tout cas en Amérique, où le marché, comme vous l'avez dit, est très important, on constate un utilitarisme des apprenants par rapport à la formation qui contribue largement à l'industrialisation et à la marchandisation. Ils veulent, ils demandent à ce que leur formation soit de qualité, un peu uniformisée, mais qu'on réponde un petit peu, qu'ils en aient, dans une formule consacrée, qu'ils en aient pour leur argent. Et c'est une pression énorme sur le système éducatif qui implique aussi toutes sortes de formules d'évaluation des enseignements qui, veut pas, produisent de la rationalisation, de la standardisation des pratiques. Il y a là, il me semble que dans les formes antérieures de l'industrialisation de la formation, ce n'était pas aussi présent que ça l'est maintenant. C'est en croissance.
Oui, merci Didier Paquelin. Je vais être rapide. Je voulais intervenir sur deux choses par rapport aux évaluations autour de la qualité, etc. Je pense que ce qui pourrait être intéressant d'interroger, c'est en quoi, par exemple, les nouveaux référentiels de l'HERS pour l'enseignement supérieur, participent d'une politique européenne aussi d'homogénéisation, voire d'aplanissement également des différences culturelles. Je vous renvoie à ce sujet-là parce que je pense que derrière aussi ces process en fait, qui visent que la qualité, mais au nom de la qualité, comme tout, on fait tout passer parce que personne n'est contre la vertu, mais on n'interroge pas les fondamentaux. Et l'autre élément, je voudrais revenir aussi sur la question des mégadonnées ou big data. Je pense qu'au fond, ça nous interroge sur les valeurs éducatives et sur la vision de l'appareil, du système, des organisations éducatives. Est-ce que au nom du fait que des données pourraient être utilisées, etc., après on pourrait rediscuter là-dessus, on continue à accepter ce qui pour moi relève d'une acceptation sociale en France d'à 27,8 ou 36% de réussite en licence, là où peut-être des dispositifs d'aide au dépistage consentis, explicites, qui rendent visible un certain nombre de pratiques, pourraient peut-être permettre d'agir en amont et d'être dans une posture d'accompagnement aussi à des individus qui potentiellement, on voit qu'ils vont décrocher, mais pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de signes ou on ne veut pas voir les signes. Ce que je veux dire à travers ça, c'est de la même façon qu'avec un stylo, on écrit le journal d'Anne Frank ou Mein Kampf. Avec cette même donnée, qu'en faisons-nous? Et je pense que ce que j'interroge là, c'est quel est le projet de société et la place de l'éducation dans ce projet de société.
Je suis absolument d'accord avec les deux éléments que vous avez énoncés. Et alors en ce qui concerne l'ARS, HCERS, c'est assez intéressant puisque je crois que personne ne l'a fait, mais reprendre les référentiels depuis le début. Vous l'avez fait. Moi, je suis très très intéressé par ça parce que il se trouve que j'y étais au début. Là, j'y suis plus depuis un an à faire des évaluations. D'ailleurs, on a fait une ensemble. Et c'était, on a vu l'évolution évidente, mais on est basé sur du déclaratif la plupart du temps, du non vérifiable. Alors, on prend le parti des collègues. Hein, c'est comme ça que ça marche. Vous savez bien. On est quand même entre pairs. C'est pas de l'évaluation au sens où on pourrait l'entendre dans une entreprise ou ailleurs où on aurait envie d'avoir des indicateurs un petit peu fiables, je dirais. Hein. Donc, ça reste quand même quelque chose de très institutionnalisé du point de vue de l'ensemble. Hein. Sur la logique des valeurs, oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je n'attaque pas les big data en soi, bien évidemment. Ce qui m'interpelle, et je suis intervenu avec des parlementaires là-dessus, pas en France, ce qui m'interpelle, c'est l'usage qu'on peut en faire. C'est la vigilance qui nous manque. C'est ça qui m'interpelle, c'est-à-dire effectivement être sûr que de la même façon qu'on tente d'enseigner, je ne sais pas si on peut y arriver, mais d'ouvrir l'esprit critique aux enfants, l'esprit critique s'adresse aussi au big data, c'était dans ce sens-là, parce que les dérives par rapport aux valeurs, je reprends vos mots, sont très très faciles et très simple à mettre en place, hein, et on peut aller très loin. Alors sur l'exemple que vous citez sur la licence, c'est un exemple que j'essaie d'appliquer moi là où je suis. Vous avez raison, vous savez, le problème du tutorat en licence, c'est que c'est souvent volontaire et que les étudiants volontaires ne sont pas ceux qui en ont forcément le plus besoin, et ça pose le problème, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours, par nos valeurs, on insiste sur le volontariat et sur le fait que les étudiants participent à un système, il nous échappe une certaine catégorie d'étudiants, c'est clair. Mais alors comment faire? Je n'ai pas de solution. Hein. En revanche, pour ceux qui sont volontaires, vous avez raison, c'est extrêmement efficace. Là, de ce côté-là, c'est efficace. D'avoir une vision de leurs résultats passés par rapport à des difficultés à venir, c'est quelque chose qu'on fait maintenant dans plusieurs universités, d'ailleurs, hein, et qui fonctionne assez bien, d'ailleurs. Hein.
D'accord. Alors, je voudrais remercier la Gaëtan. Parce que quand Gaëtan dit est-ce qu'on ne serait pas arrivé dans une période où la figure de l'entrepreneur, le rôle ou la figure de l'usager, avec une certaine forme d'ambiguïté d'ailleurs, ce qu'on met derrière l'usager et le rôle qu'on lui donne effectivement, mais ça introduit quand même l'idée qui correspond à notre troisième question de la table ronde, qui introduit l'idée, est-ce qu'on pourrait mine de rien définir des périodes, est-ce qu'il y aurait des tendances, même si on a bien compris qu'une période ne peut pas correspondre à une modalité, hein, tout ça s'hybride, mais est-ce qu'il y aurait quand même une façon de voir les choses, des problématiques qui surgiraient davantage à une période qu'à une autre? Donc je voudrais quand même qu'on arrive, même très rapidement, à traiter cette troisième question. Et là, je vais donner la parole à Olivier qui avait des choses à dire dessus.
Bien. Bon, moi, là-dessus, c'est vraiment de la conjecture, hein, ce que je vais faire, parce que c'est des choses quand même extrêmement compliquées. Hein. Bon, l'idée, alors, un mot quand même, oui, il faut quand même évidemment être très prudent sur l'idée. Il y a une évolution de l'industrie, et allez hop, immédiatement, ça va se transposer du côté des systèmes éducatifs. Hein. C'est plutôt, d'ailleurs, il y a des évolutions dans l'industrie qui se traduisent par des idéologies plus ou moins fortes et plus ou moins dominantes, qui vont avoir plus ou moins d'influence. C'est là-dessus que je vais raisonner. Bien. Alors, cela étant dit, l'idée, moi, c'était, c'est schématique. Il faut apprendre ça. Précaution. Il y a trois phases, trois grandes phases. Bon, il y a le début du capitalisme industriel, du grand capitalisme industriel, fin 19e, etc., dans laquelle la dimension vraiment mécanisation, organisation du travail, rationalisation de la production et la dimension majeure qui attire les yeux. Et c'est ça plutôt, c'est à partir de là plutôt qu'on va éventuellement penser, mais est-ce qu'on ne peut pas faire des choses similaires au niveau de l'éducation qui rencontrent des problèmes de même nature? C'est comment faire de la production de masse à coût pas trop élevé, faible. Voilà. Bon, très schématiquement, ça serait ça. Voilà. Avec en même temps, je l'ai dit, ce qui est intéressant, parce que c'est dans cette période-là qu'il va y avoir des discussions comme... autour de mais comment situer le système éducatif par rapport à l'industrie, cette nouvelle industrie naissante. Hein, voilà, hein, cette industrie naissante, c'est dans ce contexte-là, si j'ai bien compris, c'est approximatif, par exemple, qu'il peut y avoir des débats en Allemagne, dont j'ai indiqué, là, entre Liebig et von Humboldt. Hein, voilà. C'est également dans cette période-là, alors ça, c'est un autre aspect, je dirais, que va se construire le modèle von Humboldt hein, de l'université. Je dirais peut-être après ça. La deuxième phase, c'est vraiment la phase du capitalisme managérial. Hein. C'est dur de la dater, mais c'est peut-être les années 20-30 jusqu'aux années 60. C'est vraiment la construction, c'est ce que décrit parfaitement Chandler. Hein. Je pense que pour moi, c'est quand même, pour comprendre nos sociétés, c'est quand même une référence majeure. Et donc, c'est les systèmes de gestion, l'aspect bureaucratisation de l'entreprise. Il faut rappeler quand même que ce système-là, ça veut dire un accroissement considérable de la fraction du personnel d'une entreprise qui n'est plus directement dans la production. Hein. C'est ça. Hein. C'est tout l'encadrement, hein, les fonctions annexes, etc., occupent une place de plus en plus importante. C'est là qu'on va avoir le développement d'un certain mode de division du travail, etc. Voilà. Alors, c'est là aussi quand même que se développent vraiment les techniques de gestion, le début de l'importance croissante des systèmes comptables, etc. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait dans cette phase-là également des choses qui vont sans doute devenir plus importantes du système éducatif? C'est une question que je pose. Voilà. Hein. Voilà. Alors, en même temps aussi, très importante déjà dans cette forte-là, c'est la montée de la dimension marketing. La dimension marketing, il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'on passe d'un système dans lequel la production et la rationalisation de la production est centrale à un système dans lequel la vente, tout ce qui tourne autour de la vente, devient de plus en plus important. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas, là non plus, bon, j'ai le sentiment que cet aspect marketing, il va venir beaucoup plus tard. Hein, dans le... Voilà, là, va venir beaucoup plus tard. Il va venir, mais beaucoup plus tard, dans la troisième phase. Bon, il y a un autre point, moi, qui me paraît important. Toujours dans cette même période, alors, quelque chose qui est transversal, c'est la montée des business schools. Alors là, ce qu'on voit, quand on voit quand même ce qui se passe dans toute une série de domaines, on ne peut difficilement surestimer l'importance qu'a occupé la montée de l'enseignement des business schools et des business schools comme diffusion, comme centre de diffusion d'idéologie dans tout, bon, dans le système industriel, hein, bien sûr, mais au-delà. Mais au-delà, hein. il y a des choses, je crois que c'est de Fourcade hein, là-dessus, hein, prof de sociologie à Berkeley. Hein, voilà. C'est quand même extrêmement central, y compris quand on va analyser à l'intérieur des entreprises, la part des ingénieurs diminue, la part des juristes diminue, il y a toute une série de choses qui va jouer là-dessus, y compris sans doute d'ailleurs du point de vue du système de ce qu'est les business schools comme système éducatif. Hein. Il y a peut-être des choses à voir de ce côté-là, hein, j'imagine. Voilà. Alors, en même temps, dans cette période-là, il y a un point qui me semble important, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, je pense surtout ici à l'enseignement supérieur et à la science. C'est le maintien d'un principe de forte autonomie des institutions universitaires. Voilà. Hein, qui est lié, on voit ça quand même de manière... Moi, je parle là-dessus, sur ce que j'avais fait sur la recherche, hein, sur la manière dont va être pensé le système de recherche américain après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il y a truc qui s'appelle le rapport Bush, qui est très important, hein, qui a joué un rôle important, qui va être, je crois qu'il est à l'origine de la création de la NSF, qui affirme l'importance de la recherche fondamentale et de l'autonomie de la recherche fondamentale. Hein, c'est affirmé en termes très, très forts et très clairs. Hein. Et je pense d'ailleurs que ça joue un rôle non négligeable dans la force scientifique et technologique américaine, hein, ce choix-là. Voilà. Et alors, troisième phase, alors c'est celle après les années 80, bien sûr, c'est ce qui se passe. Et alors là, il y a des ruptures sur tout ça, sur tous ces plans-là. Oui, un autre point sur cette phase, donc, sur ce problème de l'influence du système managérial, je pense qu'il y avait le pouvoir managérial, mais il y avait des véritables contre-pouvoirs, de manière générale. Hein, il y a des choses qui ont été écrites là-dessus. Et des contre-pouvoirs qui pouvaient fonctionner, je pense. Les grands contre-pouvoirs, c'était quand même l'État, qui fonctionnait comme contre-pouvoir, dans une certaine mesure, face à ce pouvoir managérial, hein, c'est le pouvoir des syndicats, etc. Hein. C'est ça, en général, qu'on met en avant. Je pense que ça a pu jouer un rôle effectivement important dans la manière dont, malgré tout, les systèmes éducatifs gardaient une grande forme d'autonomie. Surtout si on pense quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand même la spécificité de l'éducation comme de la santé, c'est la place tout à fait particulière qu'elles ont dans la société. Et on ne peut pas gérer globalement le système éducatif comme on gère la production de voitures, hein, quand même. Hein, voilà. Alors, la troisième phase, bah, c'est celle, disons, en général, je vais être rapide, hein, en général, c'est le triptyque capitalisme financier, montée des technologies de l'information, hein, etc., numérisation, et économie, alors il y a différents termes, hein, capitalisme cognitif, économie fondée sur la connaissance, etc. Voilà. Bon. C'est également, bizarrement, je vais dire bizarrement pourquoi, le retour de la vision entrepreneuriale schumpeterienne. Hein. C'est bizarre, pourquoi je le dis, parce que je ne sais plus qui disait, c'est nouveau, c'est pas nouveau, le problème, hein, c'est que la vision entrepreneuriale, elle apparaît au début. Elle a été construite, hein, la théorie de l'innovation de Schumpeter, elle est construite 1914, je ne sais plus très bien la date de publication de l'ouvrage. Hein. Ce qui est intéressant, c'est le retour. Comment on remet en avant, et ça a été fait, il y a une dimension idéologique. Hein. Moi, je me souviens parfaitement de je ne sais plus quel organe de presse disant Keynes, c'est fini, maintenant, on passe de Keynes à Schumpeter. Hein. C'était textuellement, hein, textuellement. C'est la fin du. Voilà. Hein, bon. Voilà. Alors, dans ce domaine-là, alors là où je pense, alors là, il me semble que la pression idéologique managériale va être la plus forte. Parce que c'est quand même dans cette phase-là, moi, ce que je vois, hein, je m'appuie sur ce que je vois dans l'université ou ailleurs, sur à quel point la montée de la vision managériale domine. C'est-à-dire, en gros, tout doit être géré comme une entreprise. Hein. C'est quand même un peu la vision sur le modèle de l'entreprise. Il est donc naturel que ça touche, évidemment, le système éducatif. Voilà. Hein. Alors, dans le système universitaire, c'est parfaitement clair. Alors, c'est intéressant de voir aussi qu'on va avoir là, il y a eu des choses, des écrits, sur le plan idéologique majeur, disons, qui disent qu'il faut changer de système scientifique. Hein, il faut changer le système scientifique. Il y a un ouvrage majeur qui, je crois, a une très grande importance, hein, via l'OCDE et ensuite sans doute la communauté européenne aussi. C'est un nouvel de Giddens et autres qui s'appelle The New Production of Knowledge, hein, la nouvelle production de connaissances, qui dit ça, hein, il faut changer complètement, et en particulier, tel que je l'ai compris, c'est une mise en cause, mais profonde et radicale, de l'autonomie du monde académique. C'est pas les scientifiques eux-mêmes maintenant qui doivent décider de leur objet de recherche. En gros, hein, de leur objet de recherche et de leur méthode de recherche, hein, c'est la société, les utilisateurs, mais la société, évidemment, bon, voilà. Hein, voilà. Voilà, et c'est de là, alors je parlerai, hein, c'est là où se dessinent, moi, il me semble quand même, des transformations. Je crois que beaucoup connaissent ça quand même, des transformations, mais qui vont assez vite. Moi, ce qui me frappe, c'est la vitesse avec laquelle les choses vont, de transformation des institutions universitaires. Hein. Des institutions universitaires, cette explosion des modes d'évaluation. C'est intéressant de voir ces modes d'évaluation quand même. Là, on est vraiment dans l'université, dans la transposition du modèle du système industriel. Hein. Système industriel, ce qui marque ce capitalisme financier, c'est les ratings, le rôle énorme des rating agencies, hein, des agences de notation, ont construit progressivement des agences de notation des universités, hein, c'est clair, qui jouent un rôle mais de plus en plus important. Hein, voilà. Voilà un peu... voilà, d'où aussi, me semble-t-il, dans cette troisième phase, les changements dans les modes de gestion des personnels. Hein. Dans les modes de gestion des personnels, avec là aussi des choses quand même qui, alors là, sont proches. Hein. Je pense toujours à l'université. Bon, le modèle, en France, je crois, on le voit moins parce qu'il y a quand même une résilience hein, du système français très forte. Hein. Mais alors, je ne sais plus qui, on me parlait, les universités suisses. Bon, c'est l'individualisation totale, hein, totale individualisation hein, dans les recrutements. Hein. Dans les recrutements, c'est-à-dire qu'on négocie son salaire et ses conditions de travail. Hein. Des différenciations énormes dans les statuts des... la position oui, des enseignants. Hein, complète. Hein. Moi, j'ai eu un maître de conf qui était chez nous. Il est parti travailler 5 ans, et avec aussi des trucs, contrat de 5 ans à je crois, c'était Polytechnique de Lausanne, c'est-à-dire, vous voyez, un truc... Bon... raconter un peu, on change de monde, hein, on change de monde. Hein, je le dis, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est un changement de monde. Hein, c'est vraiment un changement de monde. Et ça ressemble beaucoup quand même, tel que je peux l'imaginer, à la manière dont une grande entreprise recrute un certain nombre de cadres supérieurs. Hein, voilà, voilà en gros.
Merci beaucoup. Un mot deux phrases de Gilles.
Allez, deux phrases. Oui, si on tient compte effectivement des processus historiques de division du travail, etc., la périodisation d'Olivier est celle, bien sûr, qu'il faudrait mettre en avant. La question avait une autre forme, c'était quels modèles sont dominants à quel moment. Et tout à l'heure, ça a été dit, je voudrais juste le rappeler, je crois que c'est Robert Boyer qui avait écrit ça quelque part. Un modèle, c'est un discours. Et c'est un discours de quoi? C'est un discours de légitimation. Les modèles dominants sont ceux qui sont légitimes, à défaut peut-être que ce soit ceux auxquels on adhère. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ceux qui sont légitimes. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans ce que tu as dit. C'est-à-dire que la périodisation des processus correspond aussi à celle des discours et de la légitimation par les usagers et les usages qu'ils font de tout ça. Parce que pour finir avec ce qui a été dit. Donc voilà.
Bien. Merci. Est-ce qu'on a des choses à ajouter ? Non. Ben merci beaucoup aux participants, qu'on remercie. Merci à vous.